وقفت يا جيش لقد سألت عن عظيمه. فلا يزال كلمات الرسول في
C'est qu'il faut savoir à qui poser la question. Quand on a un problème, il faut savoir à qui poser la question. Le choix de celui qui doit répondre, la réponse, qui doit répondre à une question est plus importante que la réponse. Écoutez bien, le choix de celui qui doit répondre à la question est plus important que la réponse qu'on recherche. Saïd, quand Mouaz s'est posé cette question, qui était le fruit d'une profonde analyse, savoir ce qui permet d'accéder au paradis et s'éloigne en même temps du feu de l'enfer. Il voulait le savoir. Qu'est-ce qu'il a fait? Puisque le malheur, puisque le paradis, qui a créé le paradis? C'est Allah. Qui a créé l'enfer? C'est Allah. Qui a montré les voies et moyens permettant d'accéder au paradis? C'est Allah. Qui a montré les voies et moyens conduisant en enfer? C'est Allah. Qui est celui qui introduira au paradis? C'est Allah. Qui est celui qui mettra en enfer? C'est Allah. Ça veut dire qu'en réalité, si tu veux savoir comment échapper au feu de l'enfer et accéder au paradis, tu dois te retourner vers celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a orienté pour cela. قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Interrogez les hommes de science quand vous ignorez. Quand Mouaz ignorait donc la réponse à cette question, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est rendu chez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui était le savant de son époque. Le plus grand savant, c'était le prophète Mohammed. Le plus grand savant de cette communauté, c'est le prophète de cette communauté. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour ça que son héritage qu'il a laissé, c'est la science. Et les savants sont ses héritiers. Donc Mouaz radiallahu anhu a obéi à Allah subhanahu wa ta'ala dans sa démarche, dans sa façon de réfléchir et dans sa façon de trouver la vérité, la solution. Je ne sais pas si vous avez compris. Dans sa façon de réfléchir, Mouaz avait obéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans sa recherche de la solution, il avait également obéi à Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'il a posé la question au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui à qui il se devait de poser cette question, c'est à lui qu'il a posé la question. Donc, parmi les choses que nous pouvons tirer, c'est que islamiquement, quand on a un problème, on doit rechercher la solution. Et en recherchant cette solution, on doit se rassurer d'une chose, que ce qu'on prétend être la solution n'est pas un autre problème. Que ce qu'on prétend être la solution n'est pas un autre problème. Parce que si c'est un autre problème, en réalité, on n'aura pas résolu le problème et on aura créé un problème. Ce qui arrive à la communauté du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, de nos jours, parce qu'ils ont négligé ses bases. Ils ne se sont pas cramponnés à ses bases. Aujourd'hui, quand les gens ont un problème dans leur religion, ils posent la question à n'importe qui, est-ce qu'ils ont résolu le problème? Non, mais ils ont créé un autre problème. C'est qu'ils ont donné la possibilité à ceux qui ne devraient pas s'exprimer dans la religion d'Allah de s'exprimer. Et quand ils ont ouvert cette porte, ils ont créé un grand problème dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Rabi'a ibn Abi Abdirrahman, qui était l'un des enseignants de l'imam Ahmad, de l'imam Malik, rahimahullah, quelqu'un est entré chez lui. Il dit, d'après toi, la Rabia ibn Abi Abdirrahman, il a trouvé en train de pleurer. Il a trouvé en train de pleurer. Parce que qu'est-ce qui te fait pleurer? Parce que Ali Bouka, il dit, ses pleurs se sont augmentées. Il a éclaté en sanglots. Un malheur t'a-t-il frappé Pour lui, quand il fait allusion au malheur ici, c'est est-ce que tu as perdu un proche? C'est genre, est-ce que tu as perdu un proche? Oh là là, le malheur qui m'a frappé ne relève pas de cette qualité de malheur, de cette nature de malheur. Mais c'est un malheur immense, c'est un autre malheur. Écoutez, c'est quoi ce malheur? Oh là, il souffre à malheur et malheur. استبدي من لا علم له فجلس ربيع بن ابي عبد الرحمن يبكي في بيته لان المصيبه حلت بامه محمد صلى الله عليه وسلم بان استبدوا من لا علم له. Et puis on a posé la question religieuse à quelqu'un qui n'éduquait pas la science. Imam Rabi a fermé la porte, il s'est assis en train de pleurer. Parce que on a ouvert la porte au mal. On a ouvert la porte au malheur, au désastre. Pour avoir posé la question à celui qui n'est pas connu pour avoir étudié. Écoutez bien, il ne parle pas des conséquences. Parce que comme nous avons dit, du point de vue islamique, ce que les questions nous enseignent, c'est que les mêmes causes font les mêmes effets. Les causes font les effets, leurs effets. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل هذا العلم انتزاعا من صدور الناس ولكن يقبله بقبض أرواح العلماء حتى إذا لم يبقى عالم وفي رواية إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فضلوا وأضلوا. Dans un récit authentique, le prophète Muhammad صلى الله عليه وسلم dit: Allah subhanahu wa ta'ala n'arrache pas la science des cœurs des hommes. Allah n'arrache pas la science des cœurs des hommes. Et parmi les enseignements que nous tirons de ce hadith, c'est lorsque la science utile pénètre le cœur, ça fait son effet. Si vous voyez quelqu'un qui étudie tant que la science n'influence sur lui, ça fait qu'il y a des problèmes. Soit dans son intention, soit dans la nature de la science qu'il apprend, soit dans sa compréhension, parce que ces trois sont les sources d'égarement. Sous le nid, sous le qas, sous le ilm, sous le fahm, hadi usul al-dalala. Voici les sources d'égarement. Sous le qas, la mauvaise intention. Certaines personnes vont étudier après, mais avec une mauvaise intention. C'est pour ça qu'ils ne produisent pas. Fasou al-qas aslu min usul al-dalala. Fasou al-il, la mauvaise science. Certaines personnes vont avec une bonne intention, mais étudier la mauvaise science. Kala fulan, c'est ça la mauvaise science. Tel a dit, tel philosophe, c'est monté, c'est défendu. أما العلم الصحيح فهو ضبط نصوص الكتاب والسنة كما أجي إمام ابن رجب رحمه الله قال والعلم النافع من هذه العلوم كلها هو ضبط نصوص الكتاب والسنة وفهم معانيهما والتقيد في ذلك بالمعذور عن السلف. Et la science utile, parmi toutes ces sciences-là, c'est la maîtrise des tests de la révélation. Toutes ces sciences qui n'est pas basée sur les tests de la révélation n'est pas une bonne science. Non, le fruit de l'imagination des philosophes ne peut être une bonne science que si il s'accorde avec les tests de la révélation. Donc, c'est la maîtrise des textes de la révélation du Kitab et de la Sunna. Au fond, les ma'anima et la compréhension de ces textes. Ou attaquayoti d'arika et la réalisation dans la compréhension de ces textes. Bidma'atour et anistala. Parce qu'il a été rapporté des pieux prédécesseurs. La canalisation de sa compréhension par la compréhension des pieux prédécesseurs. C'est ça la science utile. Donc, la bonne science, c'est la science du Coran et de la Sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui repose sur la compréhension des vieux prédécesseurs. Sur le qalb, sur l'ilm. Et la troisième source parmi les sources des éléments de tout le Faham. La mauvaise compréhension. Certaines personnes ont une bonne intention. Voient chez ceux qui enseignent la science utile, mais ont une très mauvaise compréhension. Et c'est toujours parce qu'ils n'ont pas respecté la démarche à suivre. Parce que quand on respecte la démarche à suivre, et on prend la science comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a révélé, on commence par tirar les matail, khabla kibariha, les petites questions avant les grandes questions. On va arriver, on va comprendre. Mais quand on s'assoit à Fungot, à Fumban, à Douala, à Yokaduma, ou partout où on se trouve, lit deux livres, non, et commence à faire des répliques à ceux qui sont connus pour s'être assis auprès des savants. C'est un problème. Parce que ce qui est sûr, ils n'ont pas compris, ils ne vont pas comprendre, ils ne peuvent pas avoir la même compréhension que les étudiants, ceux qui ont étudié. Et Allah lui-même a répondu à cette question. Alors que à la base ils n'ont pas la langue arabe. À la base ils n'ont pas la langue arabe. Et même dans le français, parfois même les étudiants se débrouillent encore mieux que eux. Mais ils prétendent avoir compris ce que c'est les étudiants qui ont parfois étudié ceux qui ont écrit ces livres, qu'ils utilisent pour faire des répliques, on va, ils prétendent avoir compris ce qu'ils n'ont pas compris. Celui qui connaît est-il comparable à celui qui ne connaît pas? Là, il y a pourquoi vous voulez qu'ils disent la même chose? Pourquoi vous voulez qu'ils font la même dawa? Il y a qui les autres ont étudié et n'ont pas étudié, pourquoi vous voulez qu'ils font la même dawa? Ce n'est pas possible. À la cour des halles, je ne sais même pas si nous a plongé dans ces détails, mais nous revenons à l'explication du Khazouf. Non, c'est ce qu'on disait. Non. Le fait que Mouaz ait posé la question à celui à qui il devrait poser la question. Et la conséquence que peut engendrer le fait qu'on pose la question à celui à qui on ne devrait pas poser la question. Donc, dans le hadith que j'avais évoqué, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah subhanahu wa ta'ala n'arrache pas la science en l'arrachant des cœurs. Voilà, c'est ça qui nous a coûté dans les détails. C'est pour dire que lorsque la science qui pénètre le cœur, ça produit toujours le fruit, ça influence toujours, bi'idnillah, par la permission d'Allah. Mais Allah subhanahu wa ta'ala arrache la science par la mort des savants. Quand il, lorsqu'il rappelle les savants, c'est comme ça que la science diminue, c'est comme ça que la science détient. Alors, qu'est-ce que le prophète Mohammed sallam veut qu'on comprenne dans ce hadith? Que nous devons profiter de ceux qui ont étudié, de ceux qui sont connus pour avoir étudié des savants, avant qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne les rappelle auprès de lui. Nous devons profiter de leur science. Et c'est pour ça que Ibn Abbas radiallahu anhu disait Mali ara ulama'ukum yadhabun wa la yata'allamu khalikum. Mais c'est quoi cette manière d'agir? Pourquoi je vois les savants mourir alors que les ignorants parmi vous n'étudient pas? Non? Abu Darda. C'est Abu Darda, c'est Abu Darda qui a dit cette parole et non Ibn Abbas, radiallahu anhu. Donc, il dit, c'est quoi cette situation? Vos savants sont en train de mourir, alors que vos ignorants ne sont pas en train d'étudier. C'est un problème. Pourquoi? Parce que ce contre quoi le prophète nous a mis en garde se produira si on n'apprend pas. Il dit Hatta idha lam yabqa alimun, jusqu'à ce qu'il ne reste plus des savants. Tant qu'Allah subhanahu wa ta'ala rappellera des savants auprès de lui, par le biais de la mort. Si les gens n'étudient pas, si les gens n'étudient pas, écoutez bien, si les gens n'étudient pas, qu'est-ce qui se produira? À la fin, il n'y aura plus de savants. à la fin il y aura plus de savants. Idalam yabqa alimun, jusqu'à ce qu'il ne reste plus de savants. Wa fi riwaya hatta idha lam yabqi aliman, si Allah subhanahu, jusqu'à ce qu'Allah ne laisse plus qu'il y ait un savant. Ça veut dire que nous devons tout faire pour que la science soit pérenne, et c'est par le biais de l'apprentissage. قال اتخذ الناس رؤوسا جهالا. À ce moment précis, quand il n'y aura plus de savants, comment est-ce que les gens vont se comporter? Ils vont prendre des ignorants comme des leaders, parce que dans la nature, les hommes ont besoin de leaders, que ce soit politiquement, que ce soit religieusement. Et les leaders religieux doivent être soit des savants, soit ceux qui sont encadrés par des savants, puisque c'est la religion d'Allah. Donc ça doit être soit des savants, soit ceux qui sont encadrés par les savants. Ça y est. Donc, les gens ne peuvent pas s'en sortir sans leaders. C'est pour ça qu'en réalité, les gens de la Sunna, non, ne sortent pas contre les dirigeants. Parce que les gens ne peuvent pas vivre sans dirigeants. Regardez la beauté de l'islam. L'islam est clair et précis. Il n'y a pas d'hypocrisie en islam. L'islam accepte ce qui est clair et appelle vers ce qui est clair. Les gens ne peuvent pas vivre sans dirigeants. Donc l'islam est contre le soulèvement contre les dirigeants. Parce que ce n'est pas ça qui résout le problème. L'islam est le bien. Et parmi les choses qui font de l'islam, c'est quel islam? C'est que l'islam met en garde contre le mal, appelle vers le bien, expose les voies permettant de concrétiser le bien et met en garde contre les voies qui attirent le mal. Parce que, du point de vue islamique, comme nous avons dit, quand il y a un problème, on recherche plutôt la solution, et en recherchant la solution, on se rassure que cette solution n'est pas en soi même un autre problème. Ceux qui se soulèvent contre les dirigeants, en réalité, quand ils se soulèvent contre ces dirigeants, est-ce qu'ils résolvent le problème? Qu'est-ce qu'ils font? Ils créent un autre problème parce qu'ils sont des ignorants, ils ne connaissent pas l'islam. Parfois l'islam peut même admettre, parce que c'est sur la base de l'islam qu'on juge quelqu'un, que le dirigeant est mauvais. Mais ça ne vous donne pas l'autorisation de vous soulever contre lui. Parce que s'il est mauvais, ce que nous devons rechercher, c'est la solution. Et non créer un autre problème. Parce que quand on va créer un autre problème, non, en plus de la pauvreté dans laquelle nous vivons, non, nous aurons les ambazoniens. Alors que nous vivons déjà tous dans la pauvreté et même avec les ambazoniens. Or, si on recherche la solution qui en soi même n'est pas un problème, on pourra tous ensemble avec les dirigeants trouver la solution. Vous voyez la beauté de l'islam. C'est pour ça que nous disons que la solution c'est l'islam. Il faut juste que les gens apprennent l'islam. Ça y est. Dans le hadith, le prophète Mohammed sallam dit, quand il n'y aura plus de savants, les gens vont faire quoi? Ils vont prendre des gens, ils vont prendre des leaders, des ignorants comme des leaders, et écouter la conséquence. Le prophète a juste parlé de la conséquence, il n'a pas donné de détails. Il a parlé de la cause et il a appliqué à cette cause la conséquence. Il a dit, et quand les gens prendront des ignorants comme des leaders, qu'est-ce qui va se produire? Balou. C'est ça la conséquence. Yahi, celui que tu suis, celui que tu penses être leader, regarde bien, si ce n'est pas un savant, si ce n'est pas quelqu'un qui est entouré par les savants, fais attention, parce que la conséquence c'est ça, c'est qu'il va s'égarer et vous égarer. C'est ça la vérité. C'est qu'il va s'égarer lui-même et vous égarer. Et c'est la même chose qui se produit lorsqu'on pose la question à celui à qui on ne devrait pas poser la question. Parce que quand on a pris un dirigeant, ils ont pris des leaders, des ignorants comme des leaders, des gens avec qui ils vont revenir dans leur religion, si ce sont des leaders religieux. Ils vont revenir leur poser des problèmes religieux, rechercher des solutions. Et ils vont s'égarer et les égarer. C'est pour ça que Rabi'a, Ibn Abi Abdurrahman, Quand il a vu les gens banaliser cette base selon laquelle on devrait poser la question, car c'est lui à qui on devrait la poser, quand il a vu que les gens n'étaient plus cramponnés à cette base, il a fermé ses portes et s'est mis à pleurer. Parce qu'il savait ce que cela devait engendrer comme conséquence. C'est pour ça qu'il a dit, il n'a pas à manifester Habuna ou Habuna à Hakobitini, mais la Torah, la grande majorité de ceux qui délivrent les fatawa dans les WhatsApp, dans Facebook, comme les réseaux sociaux nous fabriquent des savants chaque jour là. La grande majorité de ces savants-là, non, la place qu'ils méritent, c'est la prison, c'est les prisons. Ils méritent même les prisons que les voleurs, dit Imam Rabia. Yahi, parce que la pire des choses qui puissent arriver face à un voleur, c'est juste des tues. C'est juste des tues. La pire des choses, c'est qu'il se tue. Parce que le voleur, à la base, vient d'arracher ton bien. Lui, il vient d'arracher ton bien. Et la pire des choses qui puissent arriver lorsqu'il vient d'arracher ton bien, c'est qu'il te tue. Est-ce que la mort conduit à l'enfer? Est-ce que la mort conduit à l'enfer? Non? Quelqu'un ne peut pas aller en enfer parce qu'on l'a tué. Parce qu'il est mort. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Donc la pire des choses qui puissent arriver à quelqu'un face à un voleur, c'est que le voleur le tue et prend son bien. Alors que l'ignorant qui parle dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala peut te voler ton dogme et te propulser dans les ténèbres du shirk, de l'innovation, des péchés, dont il peut conduire à l'enfer. Alors qui est pire que l'autre? Le voleur ou l'ignorant qui parle dans la religion d'Allah sans science? L'ignorant qui parle dans la religion d'Allah sans science. Parce que lui, il ne tue pas le corps, ni il tue l'âme. Et il condamne l'âme, contrairement au voleur. C'est pour ça que l'imam Rabi a dit qu'en réalité, il est préférable pour ceux qui ont compris l'islam qu'on libère les prisons des voleurs. Il n'a pas dit que c'est légiféré et que c'est que les voleurs font ses biens. Mais comme nous avons les ignorants et les voleurs du point de vue islamique, les voleurs et les ignorants qui parlent de la religion d'Allah, il est préférable qu'on vide les prisons. Et comme on en sait, c'est ignorants. Parce que si on condamne tous ces ignorants-là, les savants vont bien faire leur travail et le vol va même finir. Je ne sais pas si vous avez compris. Si on condamne tous ces coupeurs de route, de la voie de la science-là, non, les savants et ceux qui ont étudié, les étudiants enfin vont bien faire leur travail. Et même le vol va disparaître, la chronique va s'installer. Et les gens vont vivre en paix dans l'inquiétude. Mais si on arrête les bandits, et laisse les ignorants, on ne connaîtra que des problèmes, des difficultés dans notre vie ici-bas ainsi que dans l'au-delà qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en présente. Donc parmi les choses que nous pouvons tirer de ce paragraphe, c'est qu'islamiquement, on ne se doit de poser la question qu'à celui à qui on devrait poser la question. Et que l'étude de celui à qui on pose la question est plus importante que la question en elle-même. Parce que quand on pose la question à celui à qui on devrait poser, même quand on n'a pas la bonne réponse auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, on est récompensé. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a oublié à Allah. Ça veut dire que quand vous posez la question à religion, à un savant, avec qui on devrait revenir pour les questions religieuses, même s'il se trompe, même si lui se trompe, Allah le récompense parce qu'il a l'autorisation de parler. Non? C'est parce qu'il a les doigts, il a déployé les voies nécessaires pour dire ce qu'il pensait être vrai. Et parce que c'est lui qui a posé la question à obéir à Allah, pour ça il est récompensé. Mais quand on pose la question à celui à qui on ne devrait pas poser, même s'il nous donne la bonne réponse auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala, on a commis un péché. Voilà la subtilité de la question, il faut bien comprendre. Celui qui pose la question à celui à qui il ne veut pas poser la question a désobéi à Allah. Celui qui pose la question à un menteur, à un diffamateur, à un troubleur, à un ignorant du point de vue islamique a commis un péché. Voilà tout ce que Allah dit. فلا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد عزيز الله ينتهي لسيكو تو سي بيرسون كومون تي بوز لا كيسيون ان ريليجيون C'est la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et nous devons la pratiquer selon les enseignements d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, quand Mouaz a posé la question à celui à qui il devait poser la question, il a cherché la solution où on devrait la rechercher. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a répondu en disant لقد سألت عن عظيم من عن عظيم certes tu as posé la question concernant une chose immense parce que c'est immense le fait d'accéder au paradis et d'échapper au feu de l'enfer. قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه وهذا من جمال دين الإسلام. Généralement on sait que pour résister, tenir une chose immense, non, il faut être fort. Et cela nécessite le déploiement d'un grand effort. Et c'est difficile. Et naturellement, c'est bon qu'on comprend de cette question. Quand le prophète Mohammed dit que c'est une chose immense, ça veut dire que c'est vraiment quelque chose de compliqué. Mais regardez la suite du hadith. وَإِلَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ عَلِيْهِ. Et c'est cette chose immense est facile à celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala a facilité. Ça veut dire qu'accéder au paradis et être dans le feu de l'enfer est facile à celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala a facilité. Parmi les leçons que nous pouvons tirer de cette paragraphe, c'est que l'on se doit de prier et ce à jamais qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui facilite la mise en pratique. Qu'Allah lui facilite la mise en pratique. Et qu'on se doit de placer sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et d'implorer son secours dans la mise en pratique afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Hey, maintenant, quand le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ. Certes, cela est facile à celui à qui Allah a facilité. Est-ce qu'on ne peut pas se baser sur ces paroles et dire que, comme c'est dit là, Allah ne va pas faciliter. Bienheureux toi, celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala a facilité. Est-ce que c'est comme ça qu'on doit comprendre le texte? Abadan. Ce qu'on doit comprendre, c'est que qui sont ceux à qui Allah facilite? Et quelle est la posture dans laquelle on se doit de se mettre pour bénéficier de cette facilité? Et je prends un exemple simple. C'est comme si le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam disait, et il faut qu'on comprenne, avoir un enfant ce n'est pas facile. C'est comme s'il disait, avoir un enfant est une chose immense. Donc ça veut dire que c'est une chose compliquée. Et qu'à la suite, il dit, mais seulement ne peut avoir l'enfant que celui à qui Allah a facilité. Est-ce que ça veut dire qu'on doit dire qu'avoir un enfant là c'est compliqué, hein? Ce n'est pas facile qu'à celui qu'Allah a facilité, non. Si on est intelligent, c'est qu'on va comprendre comment faire pour se retrouver dans la posture de ceux à qui Allah facilite d'avoir un enfant. C'est de se marier légalement et de faire les causes. Et ensuite, on aura le résultat. Donc, si on applique cela au hadith, on va comprendre que ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a voulu qu'on comprenne, c'est l'important de se mettre dans la posture de ceux à qui Allah facilite. Et les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avaient compris qu'Allah facilite à ceux qui ont voulu qu'Allah leur facilite. Qu'à ceux qui se sont mis dans la posture de ceux à qui Allah facilite. C'est pour ça qu'Abdullah ibn Busrin, radiyallahu anhu, un compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, regardez comment les compagnons réfléchissaient. C'est pour ça qu'on a dit, parmi les leçons que nous pouvons dire, c'est que Maya Dibouan du Fakira, musulman, comment est-ce que le musulman doit réfléchir? Quelles sont les bases de la réflexion d'un musulman? Regardez comment les compagnons réfléchissaient. Abdullah ibn Busrin est allé voir le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.
Il lui a dit,
Ya Rasulallah, Inna shara'i al-Islam qad kathura. Fadullani ala amrin atashabbatu bihi.
Oh, noble prophète, les législations d'Allah subhanahu wa ta'ala sont devenues nombreuses pour moi. Ça veut dire qu'il avait peur de ne pas pouvoir tenir toutes les recommandations d'Allah. Alors il a compris qu'il ne peut tenir que si Allah subhanahu wa ta'ala lui facilite.
Il est allé à la quête de la solution et il s'est rendu vers lui à qui on devrait se rendre.
Il a cherché la solution à la base, à la source. Il est allé voir le prophète et il lui a posé le problème.
Et là, il a la solution. Le prophète du Prophète sallam lui a dit La yazaru lisanaka, la yazaru lisanaka, lisanaka ratban, bizikrillah.
Alors, si tu as ressenti cela, si tu as ressenti que les législations d'Allah au Subhanahu wa Ta'ala sont nombreuses et que tu crains de ne pouvoir tenir, il a dit alors,
ne laisse pas que ta langue se sèche du rappel d'Allah au Subhanahu wa Ta'ala. Parmi les enseignements que nous pouvons tirer de ces hadiths, c'est que le rappel continué d'Allah au Subhanahu wa Ta'ala fait partie des choses qui permettent à l'homme de se cramponner à la religion et qui lui facilite la mise en pratique des injonctions divines. Parce que c'est ça la solution que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a proposé à Abdullah ibn Boutrin.
On savait dire que le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, le rappel continué d'Allah subhanahu wa ta'ala pour acquitter
les savants quand même physiquement. Et si tu veux être fort même physiquement, il ne faut pas seulement aller au gymnase.
Il faut également se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que c'est lui en réalité qui fortifie, c'est Allah. C'est lui en réalité qui fortifie, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que dans un récit de Fatima radiallahu anha, elle s'était rendue chez le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour lui demander une servante, de l'attribuer une servante. Parce que Ali radiallahu anhu n'avait pas les moyens, de s'attribuer une servante pour travailler chez lui. Fatima, qui avait besoin d'assistance dans ses tâches ménagères, s'est rendu que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il regardait l'éducation. Le prophète n'a pas fait comme lui, il n'a pas appelé à lui, il a commencé à le blâmer et tout.
Il a proposé une solution.
Quand il y a problème, du point de vue islamique, depuis là, de tout cet essai conçu, ça ne fait que confirmer ce qu'on a dit. Quand l'islam, quand il y a problème, on recherche la solution. Et la solution ne doit pas être un problème. Donc, quand Fatima radiallahu anha est allé voir Ali, allez voir le prophète. Le prophète pouvait créer un autre problème s'il n'avait pas réfléchi. C'était imposé à Ali s'il n'avait pas les moyens de lui offrir une servante. Oh, il n'avait pas ces moyens. Donc si le prophète l'avait fait, en réalité, il n'allait pas résoudre le problème et il allait créer un autre problème. Mais le prophète a analysé la situation, a tenu compte de la situation et Ali a proposé la solution. Il a dit à Fatima, radiallahu anha,
que chaque soir, lorsque tu te couches sur ton lit,
dis Subhanallah 33 fois, Walhamdulillah 33 fois, Wallahu Akbar 33 fois.
Chaque fois que tu te couches, dis cela. Aïcha Fatima radiallahu anha dit qu'elle n'a plus jamais eu besoin de servante après être cramponnée à cet enseignement prophétique. Les savants disent que le rappel fortifie et ça permet à l'homme d'accomplir ses tâches. Si vous avez des difficultés dans votre travail, dans votre métier, dans l'éducation de vos enfants, dans la complication, dans l'accomplissement des actes d'adoration, attachez-vous au rappel d'Allah. ne laissez pas que votre langue se sèche. Et plus particulièrement aux femmes, si dans votre ménage, vous avez des difficultés dans l'accomplissement des tâches ménagères, rattachez-vous à cet enseignement pour que tout Allah et vous aurez la force d'accomplir vos tâches et vous serez soulagés.
Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: la khanta al-ta'amu amin, wa inna mouna yassirun ala ma yassara.